Son émission 100% rap, c'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, les architectes du son.
Le temps d'un gin tonic, c'est le moment parfait pour décompresser avant le week-end. Les vendredis de 14h à 15h, joins-toi à Rosalie et ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des gintos et ben du fun. Voici ce qu'on te promet pendant une heure à toutes les semaines. Le temps d'un ginto, tu veux pas manquer ça.
La tournée 95 s'arrête au Centre Vidéotron le 27 avril prochain.
Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet.
Les billets sont en vente maintenant sur Ticketmaster.ca.
Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier.
Angèle au Centre Vidéotron le 27 avril, une présentation de Gestev. Le nouvel album 95, en vente partout.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
Prends une petite seconde. Bienvenue, Conduite Antisportive, Félix-Antoine Audet pour l'édition vieux de Conduite Antisportive. Gabriel Tremblay, Alex Fortin qui est avec moi. Très, très heureux de passer cette prochaine heure à parler, chialer.
Je
voulais dire chialer puis parler en même temps.
Je parlais.
Mais non, parler, chialer, s'obstiner sur le sport, faire les bons gérants d'estrade et surtout ne pas être un exemple parce que je suis absolument épuisé pour une petite course d'à peine 150 mètres.
Tu reviens d'où, là?
Oh, hey, j'ai décidé de changer ma routine et c'était la pire journée pour le faire. Hein. Faites attention sur les routes, on ne peut pas assez le dire aujourd'hui. Là. Mm-hmm. Peut-être même qu'on va faire, si besoin est, quelques bulletins circulation, ça pourrait être à propos aujourd'hui. Là. Mais c'est une drôle de journée pour moi les mercredis. Vous me permettrez cette parenthèse, inquiétez-vous pas, là, ma vie personnelle ne sera pas le sujet principal de cette émission. Mais j'ai l'émission Les Affamés d'information à midi. J'arrive à 9h, 9h30 pour commencer à la préparer. Et après ça, ben, normalement, je reste ici pendant environ 2h, le temps que ça commence. Sauf qu'en soirée, j'ai aussi mon cours de japonais à 7h. Ça fait que j'ai comme des horaires de repas vraiment étranges. Puis je me dis, non, là, aujourd'hui, je vais essayer de faire différent. Je vais retourner chez nous en bus, puis revenir juste pour l'émission en auto, payer pas trop cher le parking qui veut t'arracher tous les sous de ton portefeuille. Là. Sauf que j'ai comme à réaliser qu'il y avait une tempête de neige dans le bus à chemin à la maison. Je me dis, ouais, pabarouette, une heure pour faire cuire les burgers, les manger, puis repartir en auto après avoir déneigé. T'es serré.
Non.
Je suis rentré à quoi? 4h58 et 50 en jetant mes bottes dans l'entrée parce qu'il était mouillé, en défaisant mon manteau dans le studio. Mais,
ben voilà. J'ai une question pour toi.
Oui.
Ben, ouvre mon micro.
Oui, excuse-moi.
Pour commencer.
C'est parce que t'es assis à la place du 4 puis t'as pris le 3.
Ouais, là, t'es comme là, entre deux micros. Entre deux chaises, entre deux micros.
De quoi on parle aujourd'hui?
Hey, surprenamment, je pense qu'on est préparé.
Hein?
Relativement? Non? Oui? Peut-être?
Parlez pour vous autres.
La seule chose, j'ai pas eu confirmation. On a-tu que sont-ils devenus?
Non, pas cette semaine. J'ai un quiz, par contre, si on a le temps.
Oh, j'adore ça. Ouais. Hey, on va déballer aussi en direct des cartes de hockey tout à l'heure. J'ai tellement hâte. C'est excitant, on est rendu une chaîne YouTube pour enfants de 10 ans.
Oui.
C'est incroyable. Et on va aussi parler à nos commentateurs du Rouge et Or pour mettre la table pour cet affrontement avec Western, clash des titans en fin de semaine pour le Rouge et Or, et revenir un peu sur cette fin de match absolument débile.
J'y étais, puis c'était complètement, comme tu le dis, débile. Autant, là, autant dans les estrades que sur le terrain, dès le moment où le match est terminé, parce que les fans du Rouge et Or ont envahi
hein,
le terrain. Malgré les quelques messages avertissements là, avant la fin du match, qui avertissaient les gens que le terrain allait être disponible pour y accéder après les présentations d'usage.
Mais... Comptez sur des étudiants post-tailgate pour respecter les consignes.
Mais c'était beau, c'était très, très hot.
Ouais. Vraiment, vraiment un beau moment. Et il y a une compétition toujours très importante qui arrive dans les prochains jours. La Coupe du monde qui commence bientôt, Alex.
Oui, le Canada joue son premier match dans une semaine, exactement.
Exactement.
La Coupe du monde commence dimanche, comme on l'a dit la semaine dernière, donc dimanche le 20. Sans te mettre de côté, là, Gabriel et moi, on va mener une conversation là-dessus tout à l'heure.
je vois pas pourquoi. Je suis clairement un expert de la balle, mais du ballon au pied.
On a quand même besoin de tes questions de néophyte pour nous ramener à l'ordre.
Et voilà, je suis là pour ça. On est dans semaine d'évaluation techniquement. Hein, sur, ouais, c'est ça. On est dans semaine d'évaluation techniquement, Chiz, et il y a une question. Parle-t-on seulement aux initiés? Hein? Faut pas seulement parler aux initiés. Je vous surveille. Je vous ai à l'œil.
Mais... C'est moi qui fais ma fiche d'évaluation, fait que.
Très bon point. Ah, que je suis content d'être avec vous, les gars. Donc,
pareillement, Félix.
Ah, comment son cette émission. En parlant du Canadien de Montréal qui jouait hier, bien évidemment, contre les Devils du New Jersey. Et pour le dire poliment, gentiment,
ouais,
en bon québécois, mm-hmm, ils ont mangé une tabarouette de varlope.
Oui, oui.
Ça, mais quoi qu'une première période bien honnête, contestée, du Canadien de Montréal, les Devils du New Jersey qui sont... On en reparlera peut-être probablement dans l'émission. Là, je vais commencer à vous tanner avec mes statistiques avancées aujourd'hui. Mm-hmm. Mais une des meilleures... Sinon, en fait, selon moi, la meilleure équipe dans la Ligue nationale de hockey présentement. Hallucinant de les voir jouer. Puis s'il y en a qui commençaient à s'énerver, là, dire un Canadien est bon, c'est ouais, on a
on
peut-être
parlait
de quoi.
Série, là, hein?
C'est peut-être un rappel à la réalité de ce qui peut manquer. Il n'y a pas grand monde qui ont bien paru. Nick Suzuki, Cole Caulfield ont été, pour la première fois de la saison, là, vraiment neutralisés. On ne les a pas vus. Jusqu'à la toute dernière minute de jeu, ça allait être le premier match où les deux n'avaient pas eu un tir de la saison. Cole Caulfield qui en a eu obtenu un à la toute dernière minute de jeu. C'était difficile. Les jeunes défenseurs, à part Jordan Harris, qui est toujours le symbole même de la constance, ont mal paru.
Jordan quand même responsable du but de Jack Hughes qui fait 3-1. Là. C'est difficile de prendre possession de la rondelle lorsqu'elle roule sur la bande de cette manière-là. Ouais. Mais quand même, là, Jordan est responsable du but un petit peu. Là,
je l'avais oublié, celui-là. Ouais. Effectivement. Donc, pour dire, correction, que les recrues en défensive n'ont pas bien paru. Ça a été un match difficile sur tous les aspects. Fallait que ça arrive.
On a vu la supériorité des Devils. Ben la vitesse aussi, c'est rare que le Canadien est surclassé.
Oui. Et même en jouant un style rapide, un style offensif, couverture défensive absolument hermétique. Il y a eu un moment dans le match, ça m'a bien fait rire. Pierre Wood, qui n'en revenait tout simplement pas. Il y a toujours un joueur qui couvre un joueur. Et là, regarde, confirme, il y a un joueur, un Suzuki, et il y a un joueur, encore un joueur. Il était flabbergasté.
Les Devils sont si bien synchronisés dans leur échec avant.
Absolument.
Tomáš Tatar a l'air rapide.
Oh, Thomas Tatar est rapide quand même.
Non,
arrête-moi ça. Lent patineur.
Non, ce n'est pas un lent patineur, mais c'est pas quelqu'un d'explosif, c'est pas quelqu'un de rapide.
Non, il n'est pas reconnu pour son explosion, mais il n'est pas lent non plus.
Leur échec avant est tellement bien synchronisé que Tatar a l'air rapide, extrêmement rapide. Puis on dirait qu'ils ont des joueurs qui patinent un petit peu à la même vitesse, de la même manière. On dirait qu'ils ont quatre lignes de joueurs identiques, à part Jack Hughes et Nico Hischier qui ressort du lot, mais les autres, on dirait que ce sont tous des joueurs identiques. Et ça fait vraiment une différence marquée dans le jeu. Les défenseurs sont vraiment impliqués pour couper les jeux avant qu'ils sortent de leur zone. Donc on dit « pincher » en anglais. Ils ont le coup de patin pour le faire, l'agilité. L'intelligence aussi, parce que c'est difficile dans la Ligue nationale de nos jours d'impliquer tes défenseurs toujours vers l'avant comme ça. C'est dangereux de donner de nombreux surnombres. Mais les Devils le faisaient extrêmement bien. Puis je pense que pour les jeunes attaquants du Canadien, c'était difficile à gérer cette pression-là hier.
Une brigade défensive qui est talentueuse du côté des Devils, qui est menée par Dougie Hamilton, qui joue de façon spectaculaire.
Ces temps-ci surtout, c'est le Dougie Hamilton des beaux jours, là.
Et
qu'on a vu avec les Flames, puis même avec les Bruins.
Plus avec Boston, j'ai envie de dire.
C'est terrifiant à imaginer quand Simon Nemec va se joindre à cette brigade-là dans un an ou deux. Simon Nemec, deuxième choix au total.
Ça pourrait être en cours d'année, il est dans la Ligue américaine.
Oui, ça pourrait. Je pense qu'ils ont pris peut-être la bonne décision qu'on pourrait peut-être prendre avec Juraj Slafkovský, tant qu'à le faire jouer 10 minutes par match sur le quatrième trio. Mais
c'est un autre point qu'on pourrait aborder, parce que j'ai trouvé ça... en fait, ça fait plusieurs matchs que je trouve ça étrange de le faire jouer seulement 10 minutes, et surtout qu'il y a beaucoup d'espace entre ses présences, avec les pénalités. Surtout que là, je ne crois pas qu'il joue sur l'avantage numérique dernièrement.
Oui, il joue encore sur la deuxième vague. Parfois, quand ça va mal, il se fait mettre sur la première, mais généralement la deuxième.
Alors, souvent, il y a beaucoup de temps qui s'écoule entre ces deux présences. C'est difficile d'aller chercher du momentum.
Par le rythme.
Au début de la saison, je pensais que c'était une simple question de « on va lui faire jouer 9-10 matchs, après ça, on va le lancer dans la Ligue américaine. Mm-hmm. » Mais plus ça avance, plus ça semble clair qu'on n'a pas vraiment l'intention de le descendre. C'est pas qu'il fait nécessairement mal, là, mais justement, il marque des buts. Les buts par 60 minutes jouées, il est dans les meilleurs du Canadien. Mais il n'y a aucune passe. Et il y a une raison pour ça. Il joue sur un trio avec des joueurs qui n'ont pas de points. Michael Pedgetta n'a pas eu un point de l'année. Jake Evans n'a pas eu un point de l'année.
Ben non, c'est ça.
Jake Evans fait son travail en défensive, puis c'est du bonbon s'il rajoute offensivement. Là, c'est pas ça le but, mais tu peux pas en vouloir à Juraj Slafkovský après ça. Il devrait aller dominer dans la Ligue américaine, et Dieu sait que le Rocket de Laval pourrait aller chercher l'aide pour cette saison. Là.
Je pense que la suspension aussi a joué pour beaucoup, sur au sens où ça le ralentit, il est un peu plus... pas frileux, mais...
Peut-être.
Ça, c'est certain qu'il y a une certaine réticence dans son jeu, puis ça paraît. Là. Il joue un peu plus sur les talons.
Mais définitivement, je vois mal comment on peut justifier dans une saison de développement où on est, sur tous les points sauf celui-là, cohérent.
Ouais.
On en parlait la semaine dernière, les jeunes défenseurs qui ne se sont encore jamais fait rétrograder dans la galerie de presse. Pourquoi? Parce que c'est pas ça le but de la saison. On parle du fait, c'est sorti récemment, Martin Saint-Louis en a parlé, il n'y a pas de classement dans la chambre du Canadien. C'est très rare, là, qu'on, habituellement, dans les chambres d'équipe de la Ligue nationale de hockey, il y a un classement pour voir, est-ce que le match est plus important, il faut surveiller quoi, qu'est-ce qui se passe. Pas dans le locker room du Canadien cette année, parce que c'est pas le message qu'on veut envoyer. C'est pas le but cette année. Et on est cohérent sur tous les aspects, sauf dans le cas du développement de Juraj Slafkovský, qui mériterait un meilleur sort. Là. Soit plus de temps de jeu. Peut-être que la blessure à Jonathan Drouin sera l'espace qu'on pourra lui donner.
On a rappelé Ryan Petlick pour pallier à cette perte.
Mais il faut que ce soit Ryan Petlick qui est sur le quatrième trio.
Ouais, je pense que Ryan Petlick va être le substitut.
Exactement. Là, oui, mais c'est Juraj qui doit en profiter. Là, on pensait quand Josh Anderson avait été suspendu que Juraj en profiterait. Il est resté sur le quatrième trio. C'est Dadonov, je pense, qui avait été monté.
Ton préféré.
Pour moi, c'est son meilleur match de la saison hier, là, sans aucun doute. Pas juste à cause de son but. Là.
Ça ressemble de plus en plus à un cas de forme physique. On le voit que ses pieds bougent beaucoup plus durant les matchs, plus impliqués dans le jeu, moins à bout de souffle. T'sais, c'est des signes qui mentent pas pour un gars qui joue une fois par semaine dans des ligues de garage. Je peux vous le jurer que... que ça paraît quand on est en forme physique, il y a une petite différence entre les joueurs. Donc, c'est sûr que c'est un autre niveau. Puis, t'es arrivé avec une certaine forme. Tu ne peux pas jouer dans la Ligue nationale sans avoir une certaine forme physique. Mais je pense qu'il en a besoin de plus à l'âge qu'il est rendu.
C'est le joueur le plus vieux du Canadien à 33 ans.
Avec Price qui n'est pas vraiment.
Oui, c'est ça. Parce que techniquement, sinon, c'est Byron à 33 ans aussi et Price à 35 ans. Là.
C'est ça.
Mais je réalisais ça ce matin à quel point l'équipe est jeune. Des gars que je pensais beaucoup plus vieux. Joel Edmondson, Mike Matheson qui n'ont pas atteint 30 ans encore.
C'est
29 puis 28. Gallagher qui n'a pas atteint la trentaine, je crois, ou il vient tout juste de l'atteindre. Là. J'ai été surpris là-dessus aussi. Là. Mais une équipe jeune, ça n'a pas de bon sens.
Il y a un corps de 75, mais...
tu mentionnes Michael Matheson. On n'a pas eu l'occasion de parler du match contre les Pingouins de cette fin de semaine.
Non.
Mais on a vu Jeff Petrie à l'œuf la première fois, la deuxième fois en fait depuis, depuis le début de l'année. Ça s'enligne pour être un bon échange.
Ah oui.
Ben, on va attendre de voir Michael Matheson jouer, bien évidemment. Là. Mais on dirait qu'il y a une pente descendante plus rapide qu'on aurait pu prévoir pour un Jeff Petrie qui pourtant était un joueur absolument incroyable avant sa dernière année à Montréal, là, qui faisait un travail phénoménal.
Les séries 2020 ont amoché Jeff Petrie.
Oui, oui. L'œil rouge aura été le signe du diable sur lui.
Et le signe de la fin, tranquillement.
Le signe de la fin. Aussi, hey, ouais. Avant d'aller en pause publicitaire, parce que je veux prendre une première pause, on va aller parler à nos analystes du Rouge et Or.
Yes.
Je crois que c'est le moment de faire de nous des YouTubeurs pour enfants de 10 ans et on va faire un unpacking. Alors, Alex...
Unboxing.
Ah oh, oui, le petit ASMR. Bruit, ça, c'est agréable, par exemple.
Venez ouvrir des cartes avec moi.
OK. Mais là, il faut que tu nous décrives absolument tout.
Alors,
là.
Alors c'est un paquet noir et gris de la marque Panini. C'est la collection Score. Avec Martin Brodeur. M'as-tu acheté un vieux paquet du tournant du siècle?
Ah, y a-tu une carte à 150 000 piastres là-dedans? Là?
Qui sait?
Si on en a une, on le criera pas trop fort.
Non, c'est ça, on va garder ça pour nous.
On remercie l'imaginaire à Place Laurier qui n'a pas commandité ce segment d'émission. Mais c'est là que j'ai pris le paquet.
Ah, ils sont beaux en plus, le nouvel imaginaire.
Hey, franchement, alors, c'est quelques vraiment... années que je n'étais pas allé, mais c'est ouais. nouveau.
C'est okay. vraiment des vieilles cartes.
Oh, tabarouette.
On a des vieux joueurs.
Merde, t'as payé ça combien? Il a acheté un paquet à 25$. Il se dit, ah, c'est le marché récurrent, ça, pour un paquet.
Quelques joueurs seulement.
Okay. Quelques joueurs, ben, ça paraît. Alors. Parce que le premier joueur, je sais pas c'est de quelle collection, mais le premier joueur, on a Martin Saint-Louis. Hein?
Oh, wow!
Le Lightning de Tampa Bay.
Tabarouette. Oh, avec le vieil uniforme noir, là.
Okay. Avec son bâton jaune. Son fameux Easton jaune, hein, en bois, là. Il l'avait en bois. Il y a eu un bâton en bois maintenant, ça, c'était en composite après, mais.
Son TPS Response.
Ouais. C'est vrai, c'était pas un TPS, c'est John McGinley qui avait un...
Les initiés, les gars, les initiés.
Et là, peut-être pour ta chronique, que sont-ils devenus? Paul Gostad.
Paul Gostad?
Oh, oui, ben oui.
Bon plombier des sortes de Buffalo, quand même.
La prochaine carte, Anton Volchenkov.
Ah, nice.
Oh, mon Dieu.
Bon défenseur à la maison.
C'est vraiment un paquet de cartes pour les nostalgiques. Pour le...
c'était pas voulu, là. C'était même pas voulu.
Manny Malhotra avec les
avec les Canucks.
Oh, on est joué loin, genre 6 games pour les Canucks.
Dans la catégorie, n'a pas dû jouer longtemps, Jesse Winchester.
Ah, il a beaucoup joué à Binghamton avec les Bee-Sands. Là. Ouais.
Non, les gens de Binghamton le saluent.
Ouais. Il était capitaine d'ailleurs.
On a un chroniqueur à la radio populaire, Martin Biron.
Oh, ben oui, ben
avec
oui.
les Rangers de New York.
Et la dernière carte.
Et c'est une carte recrue.
Oh.
Hot Rookies. Est-ce que ça vaut de l'argent?
Oh.
Je ne croirais pas, car c'est Greg Nemiz.
Greg Nemiz.
Quelle déception.
Il a joué pour Team Canada Junior, lui. Hein?
Oui, aussi été excellent avec Windsor sors? Dans la OHL. 36 buts, 77 points en 65 matchs.
Moi, je pense que c'est un choix de première ronde. Même,
la morale de cette histoire, si votre choix de première ronde amasse des points dans l'une des trois ligues de la CHL, ne vous emballez pas.
Non, exactement. Et déballez-le.
Alors, on va prendre...
Alors, c'est tout, merci. Merci de m'avoir écouté.
Subscribe and stay tuned for the next video.
Un petit pouce bleu, hein?
Un petit pouce bleu. On va prendre une pause musicale. C'est Sports Team avec Fishing. Restez des nôtres. Achiz 94.3. We'll be right back.
écoute des émissions, là, du pain puis des jeux pendant une heure et demie de temps, qui nous parle d'un radio vidange, entre autres, là, il nous parle de ça, là. Il nous parle du sport, puis il nous parle des... Ils parlent même pas français, ils sont même pas capables... Où est-ce qu'elle est l'esprit identitaire dans tout ça? L'esprit identitaire de nous autres, notre peuple, là.
Il est où? Il est où l'esprit identitaire?
Hey, j'aimerais entendre Gabriel Tremblay là-dessus.
L'esprit identitaire dans notre peuple, quoi.
Il est rendu où, l'esprit identitaire?
Dans ici, le... ancré.
Et voilà.
Dans les mœurs.
Et voilà. Et il est ancré dans l'identité de l'Université Laval en parlant du rouge et or de l'Université Laval.
Notre fierté.
Très certainement. Surtout après le match de la fin de semaine passée, qui s'est terminé de façon absolument folle. À l'autre bout du fil, on a François Dumas, qui est l'un des reporters terrain du Rouge et Or pour les reportages sur les ondes de Chiz 94.3. Salut François!
Salut, comment ça va?
Ça va très très bien. Et avant de mettre la table pour l'affrontement de cette fin de semaine entre le Rouge et Or et les Mustangs, t'étais sur le terrain, t'as vécu la frénésie de cette fin de match absolument folle. Peux-tu nous mettre dans l'ambiance? Raconte-nous ça, fais-nous le vivre.
Ben écoute, c'est du football du mois de novembre. On s'entend que c'est plus froid. On n'avait pas la température qu'on peut avoir aujourd'hui nécessairement, mais ça restait, c'était gris, c'était pluvieux un peu, il ventait, il faisait quoi, 4-5 degrés. C'était, la tension était à son comble. Égalité, il restait quoi? C'était le dernier jeu du match là, pour le Rouge et Or, tentative de placement de 47 verges. J'étais entre les deux bancs et on pouvait sentir vraiment la frénésie d'un côté comme de l'autre, parce que le match pouvait se jouer là. Si le placement était raté et les Carabins étaient sortis du territoire, ben on aurait été en prolongation. Et au football canadien, on sait, la prolongation, ben c'est presque joué à pile ou face. Donc ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Mais il est arrivé ce jeu, ce plaqué de Charlie Allary tardi sur Carl Chabot. Et là, ça a été l'explosion totale pour les partisans du Rouge et Or, pour l'équipe en général. Et je te dirais, depuis, ça fait plusieurs matchs du Rouge et Or que je fais sur les lignes de côté. Je te dirais, c'est la première fois que j'ai pu sentir les partisans m'ont sauté d'un bloc. Vraiment comme s'ils étaient assis sur un baril de poudre. C'était électrique qu'on a vécu.
Je veux juste savoir, François, là, ça fait quelques jours maintenant, est-ce que tes oreilles s'en sont remises? J'imagine que ça a dû sonner un peu.
Ouais, ben comme gars qui travaille dans le monde des médias, qui fait de la radio, on est habitué d'avoir nos oreilles sollicitées. Mais oui, il y avait du bruit pas mal. Et d'ailleurs, ça a donné quelques maux de tête à l'attaque des Carabins. Ouais. Bon, je pense qu'on a écopé de quelques punitions pour avoir... mis trop de temps à mettre le ballon en jeu, parce qu'il y a beaucoup de bruit au stade TELUS et ça, c'est un avantage pour le Rouge et Or, mais ça peut être aussi un désavantage si jamais on a besoin d'un jeu clé pour certains moments. Mais samedi, pour être franc avec vous les gars, ça a été probablement, je dirais, avec le jeu truqué de Hugo Richard, Breton Robert en 2016 à Wolfsburg, probablement un des plus grands moments de la Coupe d'Andemore entre le Rouge et Or et les Carabins. Je pense que les deux moments, c'est un et deux. On peut jouer à pile ou face là-dessus aussi. Je pense qu'on a été choyés.
Je suis vraiment d'accord avec toi, François. C'est Alex qui te parle en ce moment. T'as aussi là, été là, en plein milieu des célébrations à la fin. Est-ce que ton nez s'en est remis aussi?
Oui. Ça sentait le sport. Hein, au vestiaire.
Ça sentait l'effort.
Au moins, on était à l'extérieur. Il n'y avait pas l'aspect, je dirais, aréna ou stade de football à l'intérieur. Mais c'était, écoute, les gars, t'es euphorique du côté du Rouge et Or. Du côté des Carabins, ça a été une autre histoire, défaite très crève-cœur. Il y en a pour qui c'était leur dernier match universitaire en carrière. J'ai vu des joueurs en pleurs. On avait un Marco Yadeluka très déçu du résultat, parce que ça a été une fin de match un peu bizarre. C'est rare que ça se termine sur un rouge au football canadien. Mais du côté du Rouge et Or, vraiment, là, être dans les célébrations de la Coupe d'Andemore, ça faisait quoi, 4 ans qu'ils n'avaient pas gagné? Si on exclut l'année 2020 à cause de la COVID, ben les deux dernières avaient été au Carabin. Et je pense que Diane Constantin la savoure beaucoup, cette Coupe d'Andemore.
Là, pour le Rouge et Or, souvent, la victoire de la Coupe d'Andemore dans les dernières années, ben, peut-être pas le récent, tout c'est Montréal qui l'a gagné, là, mais ça a souvent été presque un gage de bon, ben, on s'en va à Coupe Vanier puis on va la chercher, plus souvent qu'autrement. Là, c'est un autre défi pas mal plus important que l'Université de Montréal et les Carabins qui se dressent devant le Rouge et Or en fin de semaine. Parle-nous un peu des Mustangs de Western.
C'est un test très fort pour le Rouge et Or. J'aime le point que tu as amené concernant, parce que souvent, le Rouge et Or gagnait la Coupe d'Andemore. C'était comme l'étape la plus difficile avant la Coupe Vanier. C'était la demi-finale, en fait, la deuxième ronde. C'était pas la demi-finale canadienne, parce que souvent, on avait des adversaires, tout dépendant des les conférences des provinces qu'on affrontait. Contre les Maritimes, c'est toujours un peu plus facile. Il y a des années en Ontario, c'était pas nécessairement les meilleures équipes. Même chose pour l'Ouest. Mais là, cette année, les Mustangs de l'Ontario, Western Ontario, c'est une équipe complète. Ils dominent chacune des catégories offensives dans le New Sport au grand complet. On inclut les quatre conférences, que ce soit Québec, Ontario, Maritime et l'Ouest. C'est une équipe qui a une attaque au sol dévastatrice et ils ont un corps arrière quand même. Ils ont pas un mauvais corps arrière, mais c'est surtout une attaque qui joue au sol. Mais c'est une équipe qui a été extrêmement dominante cette année en Ontario. 8 victoires, aucune défaite. Et l'équipe qui a terminé deuxième, Queens, eux, ils ont été deuxième aussi dans plusieurs catégories. Et à la finale en Ontario, ils ont perdu 44-16. Ça montre la domination de l'équipe de Western Ontario.
Ouch.
C'est tout un test qu'attend Glenn Constantin sur la route samedi. Ça risque d'être un match assez explosif.
Alors, est-ce qu'il y a une voie? Est-ce qu'il y a une avenue pour le Rouge et Or pour aller chercher cette victoire-là? Si oui, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on s'entend, on est négligé fortement du côté du Rouge et Or.
Ouais.
Quel est le chemin de la victoire que doit emprunter la troupe de Glenn Constantin?
On doit bloquer l'attaque au sol de Western. Je pense qu'ils ont Keon Edwards qui a récolté quand même, qui a été le meilleur porteur de ballon du U-Sport cette année. Et aussi, on a un autre excellent, son nom m'échappe, c'est Wanadi, qui est très... Edouard Wanadi, numéro 9. Ça, c'est deux gars à surveiller en fin de semaine du côté de Western. Arrêter l'attaque au sol. Je pense que le front défensif du Rouge et Or va devoir appliquer un peu plus de pression. Ils l'ont appliqué quand même. Ils sont capables de blitzer le Rouge et Or à leur défense. Mais là, ça va être... c'est un test qui va être très difficile. Je pense que c'est la clé. Si le Rouge et Or est capable de contenir l'attaque au sol de Western, on pourra avoir des surprises samedi, mais honnêtement, on doit donner l'avantage aux Mustangs pour le duel de samedi contre le Rouge et Or.
François, Gabriel, à l'appareil, est-ce que tu penses que la distance parcourue sera un facteur? Parce que c'est quand même 10 heures de route entre Québec et London.
C'est sûr que c'est toujours ce côté-là qu'il faut prendre en considération, mais j'imagine que le Rouge et Or va être... Et bien préparés, ils sont habitués de faire de la route. Ils en ont fait quand même au cours des dernières années. Ça a été peut-être moins loin. Là, London, en Ontario, on parle quoi, d'une douzaine d'heures à peu près?
Oui, c'est plus ou moins 10 heures, là. 10-11 heures.
Plus ou moins 10 heures, c'est passé un peu. Ceux qui sont habitués à aller à Toronto, c'est plus loin que Toronto, c'est plus vers l'ouest de l'Ontario.
Exactement.
Ouais, Gabriel, je suis d'accord avec toi, ça peut avoir ça peut être un facteur important, mais je pense que rendu à ce niveau-là, rendu en demi-finale canadienne, j'ai pas l'impression que ça va être un élément qu'il va falloir prendre en considération. Les équipes, tout le monde voyage dans une saison.
Ben oui.
Il y a une équipe visiteuse, il y a une équipe locale et ça affecte toutes les équipes. Ça pourrait, évidemment, ça va avantager les Mustangs d'être à domicile devant leurs partisans. Un stade qui est magnifique en passant du côté de l'Université de Western. Et mais ça, c'est rien à envier à notre stade TELUS en passant. On demeure le plus beau stade de football universitaire au Canada. Mais Western, en plus, la Coupe Vanier va jouer là.
Ouais,
la semaine prochaine. Et je pense qu'évidemment, il y a l'avantage du terrain qui va aider les Western. Mais le Rouge et Or ont déjà gagné des gros matchs sur la route, que ce soit en série, en saison régulière. Ils ont gagné les Coupes d'Ardmore à Montréal. En 2017, on se souvient, ils avaient battu les Dinos à Calgary. Ils avaient voyagé également, c'est un voyage encore plus long que d'aller en Ontario. Mais ça peut avoir un impact. Mais j'ai l'impression que rendu là, sans dire que c'est pas une excuse, on va se garder une petite gêne pour l'instant.
François, peut-être une dernière petite question en terminant. Crois-tu que c'est un petit peu la finale avant le temps? Parce qu'on connaît pas beaucoup les équipes de l'Ouest, évidemment, là, donc je m'avance un peu là, en te demandant cette question-là. Mais est-ce que crois-tu que c'est un petit peu la finale avant le temps là, de voir ces deux équipes-là s'affronter?
Ben ton point est bon, c'est peut-être une finale B, en fait, parce que l'Université de la Saskatchewan qui va affronter les X-Men de Saint-FX en fin de semaine, je pense que c'est plus une formalité que le match entre Laval et Western. D'après moi, la Saskatchewan devrait gagner sans problème. Mais les Huskies de la Saskatchewan aussi, c'est une très bonne équipe. L'an passé, c'est ce qu'on a eu comme Coupe Vanier. Mais je pense que ces trois équipes-là, le Rouge et Or, les Mustangs et les Huskies, c'est cette année, en 2022, probablement les trois meilleures équipes au Canada. Tu peux ajouter Queens dans l'équation, qui ont été battues en fin de semaine par les Mustangs. Mais ça a été probablement les quatre meilleures équipes du U-Sport cette année. Et non, je crois qu'on va avoir un match d'un calibre final, Mais Saskatchewan aussi une très bonne équipe. Ça a été la deuxième meilleure équipe statistiquement du côté... en fait, la meilleure équipe de l'Ouest et la deuxième meilleure équipe au Canada cette année.
Merci beaucoup, François Dumas, reporter sur les lignes de côté pour le Rouge et Or sur les ondes de Chiz 94.3. Profite bien de cette rencontre.
Yes, on va regarder ça sans faute.
Yes, merci François.
On rappelle à nos auditeurs qu'on se déplace en Chiz. On est le diffuseur officiel du Rouge et Or. Donc, on se déplace à London, en Ontario, avec notre équipe de descripteurs. Ce sera Pascal Loubier et Victor Marchand là, au micro. Et oui. Puis, on est très, très, très excités de pouvoir vous présenter ça là, sur place samedi à partir de 15h.
J'ai aussi une autre bonne nouvelle de quoi de bien excitant. ce soir... C'est un affrontement de titans au Centre Vidéotron. Les deux meilleures équipes dans la LHJMQ qui s'affrontent, qui sont inarrêtables ou presque cette saison. Les Remparts de Québec, bien évidemment, avec la troupe de Patrick Roy qui ne semble pas vouloir connaître la défaite, ne semble pas vouloir être mauvais ni défensivement ni offensivement. Meilleure attaque du circuit. Et de l'autre côté, c'est le Phoenix de Sherbrooke qui est la deuxième meilleure attaque du circuit, qui est aussi dominant. Contient aussi un certain Joshua Roy, si vous êtes un fan du Canadien de Montréal. Toujours intéressant d'aller le voir jouer. C'est à 19h ce soir et on a deux paires de billets à faire tirer. C'est très, très simple. Pour les remporter, vous n'avez qu'à appeler au numéro de Chiz 94.3 qui est... Juste écrit ici, 88-656-2215. Merci. Je savais qu'il était écrit quelque part, je le cherchais.
J'ai vu ton balayage visuel. Ouais.
88-656-2215. Deux paires de billets pour aller regarder les Remparts de Québec affronter la deuxième meilleure équipe de la LHJMQ, le Phoenix de Sherbrooke. On prend vos appels durant cette courte pause publicitaire.
Sur une distance de 20 verres, la Coupe Vanier au bout du pied.
Frappé solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez maintenant LSDJ 7, présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Passe devant, c'est bien fait! Le tir est là-bas!
Les Remparts de Québec visitent l'Océanique de Rimouski ce vendredi 18 novembre à 19h. Rejoignez Ray Cloutier sur nos ondes dès 18h45 pour l'avant-match. Rempart, Océanique, ce vendredi 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le message, appuyez sur le 1.
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le...
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter...
Allô, chérie, je m'en...
Quand on perd quelqu'un, la première chose qu'on oublie, c'est sa voix. Avec votre aide, nous pouvons empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Pour en savoir plus, consultez mad.ca.
Tout le monde parle de changement climatique, mais parle-t-on assez de justice climatique? Dans la mire climatique, c'est trois passionnés de politique qui sont là pour décortiquer avec vous l'enjeu de notre génération sous un autre angle. Parce que la transition énergétique, c'est bien plus qu'une question de réduction des GES. C'est aussi une question de justice. Écoutez Dans la mire climatique tous les mardis de 11h30 à midi sur les ondes de Chiz 94.3.
The following program is disturbing.
Cash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
D'écoute!
L'Art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussions, analyses, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Cheese 94.3 avec Cédric.
Et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis matins de 9h à 11h, sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Franchement, ça parle même pas français pour commencer. Les Canadiens de Montréal, à part les remparts, là, c'est quoi qui est intéressant dans le hockey, là?
C'est ça, les remparts, c'est ça qui est intéressant. Et on félicite Rémi qui s'est mérité une paire de billets pour l'affrontement Rempart Phoenix de Sherbrooke.
Et bon match, Rémi.
Et bon match pour Rémi. Il va nous rester une paire de billets à la fin de l'émission. On va la faire tirer donc à la prochaine pause. 418-656-2215. Soyez prêts quand on va vous donner le go. Mais c'est pas tout de suite, parce que tout de suite, on se prépare à donner le go à la Coupe du monde de soccer. Vous pouvez me huer pour cette très mauvaise transition. Merci. Coupe du monde qui approche rapidement. On avait déjà commencé à placer les choses la semaine dernière. Les gars, je vous laisse continuer. On aborde d'autres groupes que celui du Canada.
En effet, il n'y a pas seulement le Canada qui joue à cette Coupe du Monde.
Pour quelqu'un comme moi, il y a juste le Canada.
Et c'est bien correct aussi. Par contre, là, il y a des matchs enlevant là, qui vont jouer après le premier match du Canada. Mm-hmm. Donc le 24 et le 25. Ce sera l'entrée en scène du Brésil, de la Serbie, de la Suisse et du Cameroun pour le groupe G. Pas un groupe facile, Gabriel.
Non, effectivement. Et on aurait tendance à dire que le Brésil est seul au monde dans ce groupe-là, si on veut, pour pas avoir de mauvais jeu de mots encore. C'est la puissance du groupe G, sans équivoque. Par contre, le Cameroun est capable de surprendre. On l'a vu dans les précédentes années, la CAF, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un des meilleurs clubs africains, en tout cas, à la Coupe du Monde cette année. Visiblement, je peux même dire que c'est pas mal le meilleur. Je le préfère au Ghana dans la relève aussi. Là. La Suisse et la Serbie.
Mais quand même, à toutes les fois où tu as un groupe avec deux nations européennes, plus une nation de la CONMEBOL. C'est difficile. Ce sont des groupes difficiles, parfois qui tournent en groupe de la mort.
Oui, effectivement. Et la Suisse, en plus, finissent tout le temps par gagner leur ticket. Hein?
Oui.
C'est fascinant. Dans une des zones les plus difficiles, voire la plus difficile, franchement, la Serbie. J'hésite, je sais pas. C'est un club qui développe bien leurs jeunes, vendent aussi dans des grands clubs.
On pense à un Dusan Vialovic qui joue à la Juventus
de Turin, que j'ai vu d'ailleurs à l'œuvre cet été. A tiré un superbe coup franc dans le match que j'ai vu contre Spezia.
Un joueur de phase arrêtée, penalty, ouais, coup vraiment, franc, target
vraiment,
man.
Vraiment. C'est pas le plus agile, un grand format, mais tout qu'un pied gauche, c'est...
Il a le profil pour réussir à la Coupe du Monde parce que les défensives sont très serrées. Mm-hmm. C'est difficile de marquer en contre-attaque. J'ai l'impression qu'il pourrait avoir là, une grosse Coupe du Monde et se révéler une deuxième fois au monde. Parce que bon, on le connaît tous quand on regarde le soccer. Mais pour les néophytes, je crois que Dusan Vlahovic des bonnes chances de se montrer à tous. Et le Brésil. Hein, les superstars, les Neymar. Hein, on ramène aussi un vétéran des Gabriel Jesus. On a un vétéran comme Dani Alves qui joue encore une Coupe du Monde. Du talent, là. Il pourrait avoir trois équipes du Brésil. Il serait encore meilleur que la plupart des clubs là, à la Coupe du Monde. Mais parle-moi un petit peu du Brésil et de leur chance de l'emporter, parce que quand on est une nation comme le Brésil, c'est l'emporter qu'on veut.
Ouais, puis je pense que ce groupe brésilien-là a encore la défaite contre l'Allemagne derrière la cravate.
En 2014.
Éloigné dans leurs souvenirs. Ben, Dani Alves était là, en plus. Il y a quelques joueurs qui étaient là à ce moment. Mais ouais, ce fut une sacrée volée. Est-ce qu'ils pourront redorer leur blason?
Est-ce qu'on a l'équipe? Parce que là, on a intégré quand même quelques jeunes de la nouvelle génération pour le Brésil. Est-ce qu'on a l'équipe en place pour aller chercher cette Coupe du Monde?
Je sais pas. Certainement pour gagner le groupe G. Je pense qu'il n'y a pas de contestation possible. En tout cas, ça prendrait une très grande surprise d'un des trois autres clubs. Mais...
Alors, s'il remporte le groupe G, il jouerait contre le deuxième de H, groupe qui serait H. le Portugal ou l'Uruguay.
Ouais.
Ou...
Et même Corée du Sud sont pas mauvais.
Ou la Corée du Sud. Un des trois, là, j'ai l'impression que ce serait plus l'Uruguay.
Ouais. Puis il faut pas non plus négliger le Ghana. Le groupe H est un des plus difficiles, je trouve, à analyser. Là.
On peut tomber sur le groupe H, si tu le veux bien, Gabriel.
Mais en tout cas, on va clore le Brésil. Là. On va finir ça avec le Brésil. Je pense pas qu'ils ont les munitions nécessaires pour gagner. Peut-être avoir un long parcours, là, certes. Là. Je pense qu'on peut pas vraiment gager contre le Brésil. T'sais. La puissance qui a vu neiger, ils ont tout vu.
Mais c'est toujours un petit peu la défensive là, qui vient les rattraper lorsqu'ils sont dans les dernières rondes du tournoi. Mm-hmm. Alors, groupe G, Portugal, comme on l'a dit, avec le Ghana, l'Uruguay et la République de la Corée du Sud.
Aïe, c'est difficile, difficile. Oui, on pense que le Portugal est le favori, avec raison. Mais l'Uruguay a l'habitude de jouer les troubles fêtes.
Des joueurs très intenses, très intenses. On a des jeunes comme Darwin Núñez, mais encore des vétérans comme Cavani et un certain Luis Suarez.
Ben oui, notre cher Luis Suarez. Qu'on a lu que joue au Vampire.
Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Okay. Aussi, déjà à la Coupe du Monde de 2010, bloqué un tir avec sa main pour empêcher un but. Et le joueur du Ghana, il y a eu pénalty, n'a pas réussi à marquer.
Ah, cool.
C'est un des plus grands vols de l'histoire de la Coupe du Monde. Toujours à la limite des règlements, ce cher Luis Suarez.
C'est qui disait si tu triches pas, t'essayes pas.
Ouais. Exact. Exactement.
En désespoir qui... de cause.
Sûrement moi au Monopoly qui fait ça. Hein. mais clairement, l'Uruguay a toujours une chance de se rendre loin, de passer le groupe. Le Ghana peut venir jouer les troubles fêtes, par contre, avec des fois un nul mal placé. Hein, ça change la donne pour une équipe qui pensait pouvoir sortir du groupe, comme la Corée du Sud. Mais la Corée du Sud, on a du talent.
Yu Ming-sun, qui joue à Tottenham.
Exactement.
Un des meilleurs joueurs en Premier League. Sinon le meilleur. Pour vrai,
il est le champion en titre du meilleur marqueur de la Premier League l'an dernier. Déjà, je pense que c'est assez pour vous expliquer à quel point c'est un joueur électrisant. Et ensuite, une équipe là, avec beaucoup de talent. Il n'y a pas de mauvais joueurs dans cette équipe-là. Ils sont excellents.
Rapide en contre, comme très peu de clubs.
Exactement. Et pour mettre de la pression sur les joueurs, souvent, ça peut déstabiliser une équipe comme le Portugal, qui aime jouer ballon au pied.
Là, c'est le temps de la question du néophyte.
Oui.
J'entends souvent cette expression, cette fameuse expression, le groupe de la mort.
Ouais.
Quel est le groupe de la mort? Pourquoi on parle d'un groupe de la mort quand, techniquement, les équipes sont classées avant d'être pigées, donc tu devrais avoir un classement, les groupes relativement égaux. Comment on se retrouve avec ces groupes de la mort-là?
C'est la réputation qui fait en sorte que c'est un groupe de la mort parce qu'il y a des puissances mondiales qui n'ont pas nécessairement le classement mondial qui vient avec.
Comme la semaine dernière, on t'expliquait que le classement de la FIFA était un genre de power ranking.
Ouais.
Mais ce classement des forces-là ne suit pas assez l'évolution même du momentum des clubs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de points attribués pour les défaites, les victoires, surtout pour les matchs amicaux ou pour la Ligue des Nations, par exemple, qui se joue là, entre les Coupes du Monde ou entre les grands événements. Donc, une équipe qui a beaucoup de points d'accumulés va être capable de défendre ou de retenir un bon rang là, durant plusieurs années. Comme la Belgique est deuxième au monde en ce moment, il n'a pas nécessairement les forces d'une deuxième au monde à l'instant même. Alors, ça crée des situations là, où tu as l'Espagne avec l'Allemagne et le Japon, par exemple.
OK. Fait que tu te ramasses avec des équipes qui ne devraient pas nécessairement s'affronter comme ça en poule.
Exactement.
En poule.
Alors le groupe H peut être considéré comme un groupe de la mort, le groupe G aussi. Et si le Canada peut avoir des bonnes performances, ben le groupe F, avec un Maroc qui est vraiment excellent, des joueurs qui jouent partout en Europe, en première division, dans des bons clubs, avec la Croatie et la Belgique qui veut se rendre au bout. La Croatie qui s'est rendue au bout en finale à la dernière Coupe du Monde sans la gagner, ça pourrait être un groupe de la mort aussi.
OK. Peut-être que le groupe du Canada, c'est le deuxième plus mortel. Moi, je vois le groupe E comme groupe de la mort parce qu'il y a l'Espagne et l'Allemagne là, dans le même groupe, deux puissances européennes.
Mais un Costa Rica en fin de vie.
Un Costa Rica en fin de vie, mais un Japon qui contrebalance un peu ça. Je trouve que c'est le groupe peut-être le plus fort.
C'est vrai qu'un Japon, une nation comme l'Allemagne et l'Espagne, les trois ont l'intention et les prétentions de se rendre en phase éliminatoire.
OK. Et deuxième et dernière question de néophyte avant de changer de sujet. si je suis, je suis néophyte.
Bonjour, match, bonjour, monsieur néophyte, ça va bien?
Ça va très bien. Le match que je ne dois pas manquer, celui qui va me convertir en fan de football pour les 25 prochaines années, durant cette phase de poule, qu'est-ce que je dois surveiller?
Un Espagne-Allemagne dès le 28. Je pense que c'est difficile à rater. Ça va être un excellent match, mais sinon, tu sais, sans y aller avec des gros noms.
Angleterre-États-Unis.
Angleterre-États-Unis. Si Christian Pulisic marque à la 90e minute le but gagnant pour les États-Unis et il lève son gilet avec des mots marqués comme ça s'appelle jouer au soccer et non au football, ce serait incroyable.
C'est quelque chose que tu as déjà fait?
It's called soccer. Non, mais c'est quelque chose qui trend en ce moment sur les réseaux. Ça pourrait être complètement magique.
Ben voyons donc, je peux pas imaginer.
Mais un France-Danemark, on parle peu du Danemark, mais ils ont une équipe là, extrêmement bonne balle au pied. C'est difficile de jouer contre les Danois. La France pourrait se faire surprendre. Il y a des matchs de qualité, il y en a partout.
Argentine, Mexique, Espagne, Allemagne.
Mais c'est sûr que si vous tombez sur un Qatar-Équateur comme premier match, c'est pas un match barème. Alors, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne Coupe du Monde. On est très excités.
On va commencer à revenir sur les premiers matchs dès la semaine prochaine, ce que j'en comprends. Là. Donc, soyez alertes. C'est mon tour d'essayer de vous perdre dans les méandres de quelque chose. Je vous ai titillé depuis le début de cette saison de conduite antisportive en vous parlant de ma passion pour les statistiques avancées au hockey. Statistiques avancées que je suis un peu moins peut-être qu'auparavant, mais que je continue tout de même de surveiller d'un œil attentif à chaque saison. Pour moi, les statistiques avancées au hockey, parce qu'on me dit souvent c'est plus un gage de quelle équipe a mieux joué que de celle qui va gagner. Ça veut pas nécessairement dire, il y a plein de facteurs. Il y a un mauvais gardien de but, une équipe qui profite d'un peu de chance avec la rondelle qui roule pour eux pendant une longue séquence. Il y a bien des choses qui peuvent s'expliquer. Mais la raison pour laquelle je veux vous en parler, c'est à cause des Devils du New Jersey, qu'on vient tout juste de voir jouer, qui est une équipe absolument fascinante chez les statistiques avancées. Alors, je vous positionne. Il y a une stats avancée qui a commencé à devenir, je vais dire, entre guillemets, mainstream dans les dernières années. Le
différentiel. le WAR.
Le Corsi.
Le Corsi,
qui a commencé à être bien connu. C'est pas mal un des indicatifs au hockey, c'est la possession. C'est toujours ce qu'on cherche un peu à définir pour voir qui contrôle un peu plus le jeu. Le Corsi a été la première base qui a été utilisée pendant longtemps. Elle est encore utilisée. Le Corsi est calculé par chaque tentative de tir d'une équipe. Ça a été parti par Jim Corsi, qui était entraîneur des gardiens de but pour les Blues de Saint-Louis, qui cherchait à trouver un moyen pour calculer l'effort d'un gardien de but dans un match, parce que tu dois réagir à toutes les tentatives de tir, qu'elles soient réussies ou non.
Il joue pour les Nordiques, d'ailleurs, Jim Corsi.
Très belle analyse. Tu as une espèce de bibliothèque de joueurs obscurs dans ta tête, Gabriel. J'aimerais vraiment comprendre comment ton cerveau fonctionne. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue profondément. Qu'est-ce qui fait? Quelle information importante as-tu décidé d'oublier
qui
pour
se
retenir tout
qui,
ça?
Qui se ressemble, ça semble. Hein? Gabriel est un homme obscur.
Exactement. Donc, Corsi qui a été utilisé longtemps. Mais ça calculait donc toutes les tentatives de tir, même les tirs bloqués. On a fini par modifier un peu ça avec le Fenwick, qui considérait les tirs qui n'étaient pas bloqués. Parce qu'on se disait, un tir bloqué, c'est une chose positive, il ne faudrait pas le considérer comme négatif qu'une équipe réussisse à bloquer ses tirs parce qu'elle a une tentative de tir.
Logiquement.
Il y a certaines analyses qui sont imposées, mais généralement, c'était bien accepté. Là, on est rendu, depuis quelques années, à une étape beaucoup plus intéressante, selon moi, parce que le Corsi calculait, oui, l'équipe qui jouait le mieux d'une certaine manière, plus souvent qu'autrement, parce que, contrairement au soccer, oui, la contre-attaque, ça existe au hockey, puis c'est une stratégie utilisable, mais c'est un peu moins fiable comme stratégie que de la possession de rondelles. C'est pas une stratégie aussi viable qu'au soccer, du moins l'impression que j'ai, là, avant que vous me dites que ça existe pas pantoute, la contre-attaque comme stratégie viable au football. Mais on a maintenant excusez-moi l'expression anglaise, j'ai de la difficulté à le traduire en français, expected goal shares. Les attentes de buts marquées par les équipes. C'est une espèce de fusion entre le Corsi, le Fenwick, et les chances de marquer. Okay. De haute, de moyenne, de ouais. basse qualité, parce qu'on les calcule. Ouais. Donc, avec ça, on est capable de dire en moyenne, une équipe qui lance autant de tirs d'autant de telle région devrait marquer tant de buts par match. Et devrait en accorder tant, dépendamment de la qualité des tirs qu'il donne. Et là, tu as un petit pourcentage, c'est merveilleux. Ça te donne à peu près, je dirais, le modèle le plus fiable qu'on a depuis longtemps, de la qualité d'une équipe. Encore une fois, c'est ce qui est attendu. Il peut y avoir un gardien de but qui ne produit pas, un manque de talent, même si les joueurs jouent très bien, qui fait qu'on n'arrive pas à compléter les jeux. Tout ça est possible.
T'as une tonne d'impondérables.
Exactement. Mais ça donne une idée de qui a mieux joué. Hmm. Idéalement. Les Devils, en dernier, étaient une des très bonnes équipes à ce chapitre. Mais dans les pires gardiens de but de la Ligue,
ben oui.
on se faisait démolir à ce chapitre-là. Les Hurricanes de la Caroline, avant de devenir la force qu'ils sont présentement, l'ont été longtemps une des bonnes équipes dans ce stade-là, mais, encore une fois, les gardiens de but qui ne fonctionnaient pas. À l'inverse, le Canadien de Montréal de Michel Therrien, avec Carey Price qui volait des matchs à n'en plus finir, était une des pires équipes de la Ligue.
Certainement.
Mais était soutenu. Ça passe généralement l'œil le test visuel. Là. Mm. D'être capable de regarder et dire clairement cette équipe-là est en contrôle du match. Après ça, qui marque les buts, c'est des événements isolés dans le match.
Clairement.
Donc, les Devils du New Jersey, pour vous donner une idée de la dominance de cette équipe-là cette année, dans les buts attendus, donc l'équipe qui devrait marquer le plus de buts selon leur jeu cette année, il y a les Panthers de la Floride au premier rang avec 41 buts attendus. Et au deuxième rang, c'est les Devils du New Jersey à 41 buts attendus, là, avec un petit point 2 de différence entre les deux équipes. Clairement, la meilleure et une des meilleures équipes offensives de la Ligue. La grosse différence qui fait d'eux la meilleure équipe, c'est que non seulement on se retrouve dans le summum des équipes offensives dans la Ligue, on se retrouve aussi à être la meilleure équipe défensive de la Ligue, avec une moyenne de buts attendus contre de 24. Et ce qui est intéressant de suivre avec ça pour voir est-ce qu'une équipe surperforme ou sous-performe, c'est de comparer avec ce qui est arrivé pour vrai. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on joue à notre niveau actuel? On est à peu près exactement dans ces chiffres-là pour les buts marqués et les buts accordés. On a accordé 25 buts, on était supposé en accorder en moyenne 24,2. Donc, pile poil ou presque dessus, on était supposé en marquer 41, on en a marqué 43. C'est une équipe qui joue exactement à ses compétences. Souvent, quand tu vois une équipe qui va avoir une séquence folle là, de 15, 18 victoires en ligne, 10 victoires en ligne, comme on voit en ce moment avec les Devils, là, sont à 10. Il y a un peu de puck luck qu'on veut appeler. Au hockey, c'est malheureux, mais avec les déviations, avec la quantité de bâtons, ça se fait relativement facilement d'avoir cette puck luck-là qui va te donner une bonne séquence, un gardien qui est en feu pendant un court moment.
Exactement. C'est pas un sport qui est statique non plus.
Exactement.
On n'est pas au baseball où quand même cette comparaison de statistiques est presque parfaite, là, parce que ça reste...
C'est rare que c'est parfait comme
exactement.
Ça.
Puis j'avais une question par rapport à ça, question du néophyte numéro 2.
Ah, j'adore ça.
au niveau de la prise de données.
Oui.
Parce que comme c'est pas un sport statique... comment on évalue qu'une chance de marquer ou qu'un lancer vaut 0.02?
C'est de l'endroit d'où c'est marqué. Si, par exemple, directement dans l'enclave devant le gardien de but, en moyenne dans la Ligue nationale de hockey, il y a 3 tirs sur 10 qui rentrent de cette zone-là, mais on va l'évaluer de telle façon, c'est pondéré de telle façon. Là, je ne suis pas le mathématicien derrière ça, mais c'est à peu près de façon simplifiée.
Et j'imagine qu'il y a des logiciels d'impliquer dans la prise de données, puis... ça se fait de manière
j'assume
instantanée.
Que oui, je ne viendrai pas te le confirmer ou te l'infirmer, mais je vais assumer que oui. Et je vais terminer là-dessus rapidement en vous donnant un peu l'inverse des Devils du New Jersey. Et pourquoi il ne faut peut-être pas trop s'emballer rapidement sur le début de saison du Canadien de Montréal. défensivement, je pense que c'est le point qui surprend le plus chez le Canadien, là, la défensive qui va très bien. C'est surprenant. Mais c'est à peu près à ça qu'on devrait s'attendre du Canadien cette année. En ce moment, comment on joue? On devrait avoir reçu 34 buts contre pour le Canadien. On en a accordé 33. Donc, on est vraiment à peu près à ce qu'on peut s'attendre. Donc, quand on parle de Caden Goulet, qu'on parle de Jack Eye, qu'on parle de Jordan Harris, ils ne sont pas chanceux. Ils jouent bien. Réellement, on peut quand même être satisfait là-dessus. Ben, en tout cas, on est dans le milieu là, de la Ligue au niveau des buts accordés. On n'est certainement pas les meilleurs. On est en fait dans le dernier tiers. Là. J'exagère presque. On est au 10e rang à partir des pires. Mais c'est au niveau des buts marqués qu'on ne se démarque pas de la bonne façon. On est la 7e pire offensive attendue de la Ligue à 28 buts marqués attendus. On en a marqué 35. Et ça, je vous sors rapidement une autre statistique avancée qui explique un peu. C'est le pourcentage de tirs sur glace. Ça, c'est le pourcentage de tirs de l'équipe au complet quand un joueur est sur la patinoire. Et Nick Suzuki et Cole Caulfield, c'est un peu trop haut pour que ce soit quelque chose de qui va se tenir à long terme. Ouais. On est à peu près dans les 20-25% de tirs qui arrivent sur la patinoire quand ces deux-là sont présents, qui rentrent dans le filet, ce qui n'est pas normal. Ce qui est absolument anormal pour peu importe le joueur dans la Ligue nationale, de l'histoire de la Ligue nationale, ça n'arrive pas. Et on peut s'attendre facilement à une régression. C'est ce qui tient l'attaque du Canadien en vie. Je pense que, encore une fois, le test visuel le confirme. L'attaque du Canadien passe par Nick Suzuki et Cole Caulfield. Mais le rythme, il joue un très bon rythme. Il devrait marquer des buts, juste pas autant qu'on ce qu'on voit en ce moment. Donc, peut-être un tout petit coup d'œil aux statistiques avancées pour vous préparer aux prochaines semaines, parce que j'ai pas fini de vous en parler. Il nous reste à peine quelques minutes, mais je veux vraiment...
Est-ce que l'Université Laval donne un cours là-dessus?
Le Corsi.
Oui, le Corsi. Il y a un cours de statistiques avancées de hockey. Moi, je trouve ça super intéressant. Marc Denis, je le trouve aussi de plus en plus connecté là-dessus. N'est vraiment pas bouché à ça. Il en parlait même durant le reportage des Devils. Il disait, j'avais vu beaucoup de statistiques avancées, de reportages sur les Devils. J'avais hâte de voir telle ligne. Thomas Tatar, qui est un joueur de possession incroyable. Lui, Philippe Dano et Gallagher, il y avait une raison pourquoi c'était un des meilleurs trios de la Ligue sans la quantité de buts qui venait avec ça. Là. Niveau possession, il était absolument hallucinant. Donc, terminé pour parler de Bénédicte Mathurin.
Oui.
Dans la NBA. Il nous reste à peine deux minutes, mais ça vaut absolument la peine parce qu'on commence à parler de lui dans la NBA, non plus seulement pour le trophée de recrue de l'année qui devrait se disputer entre lui et Paolo, mais bien pour trophée du sixième homme de l'année. Parce que c'est très rare de voir... Il a été repêché sixième au total. Il ne joue pas sur l'alignement partant. Rick Carlisle, du côté des Pacers, un entraîneur d'expérience, un entraîneur qualifié, dit « On n'a pas besoin de brûler les étapes. On a une équipe qui est talentueuse. Ça va bien. On ne forcera pas le jeu avec lui. » Mais ça fait qu'il arrive à marquer à peu près 20 points par match en sortant du banc. C'est absolument spectaculaire. Des derniers gagnants du trophée du sixième homme de l'année, il y en a eu que très peu qui n'ont pas marqué. Il y en a eu seulement 5 dans les 40 derniers gagnants du trophée qui marquaient autant de points que lui. Et c'est pas mal un des critères, sinon le seul critère pour gagner le trophée de sixième homme, c'est d'être un dynamo offensif en sortant du banc. Et Bénédicte Mathurin est en train de ramasser ça. Il est impressionnant à voir aller du côté des Pacers. Évidemment, là, sa grande compétition, c'est Paolo Banchero avec le Magic d'Orlando qui lui
est partant. Toutes les minutes de jeu dont il a besoin pour se démarquer et pour aller chercher le trophée de la recrue de l'année.
Parce que des doublés comme ça, autres honneurs que recrue de l'année, c'est de plus en plus rare. Mm-hmm. Paolo, lui, encore plus qu'être considéré pour sixième homme de l'année. On commence à parler de lui comme être un partant dans le match des étoiles pour l'Est.
Alors qu'il est sur le banc.
Non, lui est partant. Là, mais absolument.
Imagine Mathurin au match des étoiles partant. Alors
ça aurait été hilarant. Mais 23,5 points par match, 8,3 rebonds, 3,6 passes décisives. Et Paolo est incroyable.
Et ceux qui ne l'ont pas joué encore, là, notre cher Bénédicte Mathurin national de Montréal-Nord.
Oui.
Regardez un de ses matchs, parce que ce n'est pas seulement le nombre de points ou les statistiques qu'il amasse, c'est le fun de le voir jouer.
Il est
énergique,
dynamique.
Il fait partie du match, n'est pas en marge. Il dit que vraiment le ton, c'est vraiment très plaisant de l'avoir joué.
On ne parle pas assez de lui. Ouais. Ça devrait être un modèle en ce moment qui donne le goût à tous nos jeunes de jouer au basket. Et on ne parle pas assez d'un gars qui domine à sa première année dans la NBA de façon exceptionnelle qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Honnêtement, ça vaut la peine jeter un coup d'œil aux Pacers et à Bénédicte Mathurin. Ça a été un plaisir, les gars. Je vous rappelle, 418-656-2215, vous avez quelques minutes pour nous rejoindre pour remporter une paire de billets pour les Remparts contre le Phoenix de Sherbrooke. C'est ce soir. Appelez au 418-656-2215. Merci, les gars. On se retrouve la semaine prochaine.
Bye-bye!
Bye!
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
En passant par des films marquants de films aux paroles de chansons remplies de meaning, pop en